Chapitre 10. Will Ladislav se montra tout à fait charmant au dîner du lendemain et ne fournit pas de prétexte à M. Casaubon pour manifester son mécontentement. Dorothée crut remarquer, au contraire, que Will s'entendait mieux que personne à intéresser son mari à la conversation et à l'écouter respectueusement. Will parlait beaucoup lui-même, mais ce qu'il disait était lancé si rapidement, avec une si insouciante facilité, comme des remarques sans importance, qu'on eût dit un joyeux carillon après le son de la grosse cloche. Si tant est que Will ne fut pas toujours parfait, ce jour-là, certainement, fut un de ses bons jours. Il décrivit des scènes populaires de Rome que pouvait seul saisir un promeneur circulant partout. Il se trouva d'accord avec M. Casaubon sur les opinions erronées de Middleton à propos des rapports du judaïsme et du catholicisme. Il passa sans effort de ce grave sujet à une peinture à la fois enthousiaste et badine des jouissances qu'il avait trouvées à Rome dans la variété et l'amalgame même de tant d'éléments divers. Cette variété assouplissait l'esprit par des comparaisons continuelles et lui permettait de voir dans les différentes époques du monde autre chose qu'une série de partitions bien rangées, sans rapport entre elles. Will observa que les études de M. Casaubon avaient toujours été d'une nature trop élevée et trop large pour l'exposer à cette erreur, et qu'il n'avait sans doute jamais eu à ressentir un effet aussi soudain. Mais, quant à lui, il avouait que Rome lui avait donné un sens tout nouveau de l'histoire. Puis, à l'occasion, mais sans trop le marquer, il en appelait à Dorothée et discutait ce qu'elle disait comme un sentiment dont il fallait tenir compte dans le jugement final qu'il portait sur la Madone de Foligno ou sur le Laocoon. L'idée que l'on contribue à former l'opinion des autres rend la conversation particulièrement animée et attrayante. Et M. Casaubon lui-même ne considérait pas sans un certain orgueil sa jeune épouse qui parlait mieux que la plupart des femmes, comme il l'avait remarqué lorsqu'il l'avait choisie. Les choses allant aussi bien, et M. Casaubon annonçant que son travail à la bibliothèque allait être suspendu pour un ou deux jours, et qu'après une courte reprise de ce travail, il n'aurait plus de raison de rester en Italie, Will s'enhardit à demander que Mme Casaubon ne quittât pas Rome sans avoir visité un ou deux ateliers. Son mari ne voudrait-il pas l'y mener? C'était une chose curieuse à voir, tout à fait particulière. Will se ferait un plaisir de les conduire. M. Casaubon, voyant le regard de Dorothée se fixer sur lui, ne put que lui demander si de telles visites l'intéresseraient. Il était à ses ordres pour toute la journée du lendemain, et il fut convenu que Will viendrait les prendre. Will ne put se dispenser de les mener chez Thorvaldsen, célébrité vivante dont s'enquit M. Casaubon lui-même, puis de bonne heure encore, il les conduisit à l'atelier de son ami Naumann, qu'il leur présenta comme l'un des principaux rénovateurs de l'art chrétien. L'un de ceux qui avaient non seulement fait revivre, mais encore étendu cette grande conception qui faisait les événements suprêmes de l'Évangile, autant de mystères que les siècles successifs contemplaient en spectateurs et avec lesquels les grandes âmes de toutes les époques pouvaient se sentir contemporaines. Will ajouta qu'il s'était fait dans ce but l'élève de Naumann. « J'ai fait quelques peintures à l'huile sous sa direction, » dit Will. « Je déteste faire des copies. Il faut toujours que j'y mette quelque chose du mien. » Naumann a représenté les saints tirant les chars de l'église. Et moi, j'ai fait une esquisse du Tamerlan de Marlowe, conduisant du haut de son char les rois vaincus. Je ne suis pas dans le religieux comme Naumann, et je le blâme quelquefois de vouloir mettre trop de signification dans ses tableaux. Mais cette fois, je veux le surpasser dans la profondeur de l'intention. Je ferai de Tamerlan sur son char l'image de la course effrayante de l'histoire physique du monde, menant à coups de fouet les dynasties armées. C'est à mon sens une belle allégorie. » Ici, Will regarda M. Casaubon, qui accueillit avec un embarras visible cette façon légère de traiter le symbole, et s'inclina d'un air vague. « L'esquisse doit être bien grande pour exprimer tant de choses, » dit Dorothée. « Je réclame encore certaines explications relatives à cette interprétation. Voulez-vous représenter par Tamerlan les tremblements de terre et les volcans ?»« Oui, » répondit Will en riant. Et les migrations des peuples, et les défrichements des forêts de l'Amérique et la machine à vapeur, tout ce que vous pourrez imaginer. C'est là un genre de sténographie bien difficile, dit Dorothée à son mari en lui souriant. Il faudrait toute votre science pour parvenir à la déchiffrer. » M. Casaubon cligna de l'œil furtivement du côté de Will. Il soupçonnait qu'on se moquait de lui, mais ce soupçon ne pouvait s'étendre à Dorothée. Ils trouvèrent Naumann en train de peindre. Ses tableaux étaient disposés avec art, et lui-même, sympathique et avenant de sa personne, paré d'une blouse gorge de pigeon et d'une calotte de velours brun. Tout chez lui semblait arrangé comme à l'intention de la jeune et charmante lady qui venait le visiter. L'artiste fit bravement, dans un anglais douteux, de petites dissertations sur ses tableaux achetés et non achevés, observant d'ailleurs M. Casaubon avec autant d'attention que Dorothée. Will intervenait de temps à autre pour faire ressortir certains mérites particuliers dans l'œuvre de son ami, et Dorothée avait le sentiment qu'elle acquérait sur l'art des notions toutes nouvelles. « Je préférerais sentir qu'une peinture est belle plutôt que d'avoir à en chercher l'énigme. Mais je crois que j'apprendrai plus vite à comprendre les tableaux de votre ami que les vôtres, avec leur signification profonde, » dit Dorothée à Ladislav. « Ne parlez pas de ma peinture devant Naumann, » répliqua Will. « Il vous dira que ce n'est que de la foucheraille, et c'est son mot le plus injurieux. » « Est-ce vrai ?» dit Dorothée, en regardant de ses yeux sincères Naumann, qui fit une légère grimace en répondant « Oh, il n'est pas sérieux dans sa peinture. Sa vraie carrière, c'est la littérature. C'est une carrière vaste. » L'épigramme involontaire de l'artiste réjouit tout à fait Will qui se mit à rire. Et M. Casaubon, tout en éprouvant un certain dégoût de l'accent germanique de Naumann, commença à accorder quelque estime à sa judicieuse sévérité. Cette estime ne diminua pas quand l'artiste, après avoir pris Will un instant à l'écart et avoir regardé alternativement une grande toile et M. Casaubon, revint s'adresser à lui. « Mon ami Ladislav me fait espérer que vous me pardonnerez, monsieur, si je vous dis qu'une esquisse de votre tête serait d'une valeur inappréciable pour le saint Thomas d'Aquin que je veux mettre dans ce tableau. C'est trop demandé, je le sais. » Mais il est si rare de trouver exactement ce que l'on cherche, l'idéal dans le réel. « Vous m'étonnez beaucoup, monsieur, » dit Casaubon, dont le visage s'éclaira d'une lueur de satisfaction. « Mais si ma pauvre physionomie, que j'ai toujours regardée comme de l'espèce la plus ordinaire, peut vous être de quelque utilité, en vous fournissant certains traits pour le docteur Angélique, j'en serais très honoré, c'est-à-dire si l'opération n'est pas de longue durée, et si Madame Casaubon ne s'oppose pas à ce retard. Quant à Dorothée, rien n'eût pu la ravir davantage. Rien, excepté une voix miraculeuse, déclarant M. Casaubon le plus sage et le plus digne entre les fils des hommes. Dans ce cas-là, sa foi chancelante aurait retrouvé toute sa solidité. Naumann était merveilleusement outillé, et l'esquisse commença aussitôt. Dorothée s'assit et resta plongée dans un paisible silence, se sentant plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Tout ce qui l'entourait lui semblait bon, et elle se dit que, si elle avait été seulement moins ignorante, Rome eût été pour elle pleine de beauté, et que sa tristesse se fût parée des ailes de l'espérance. Il n'y avait pas de nature moins soupçonneuse que la sienne. Enfant, elle croyait à la gratitude des guêpes et à l'honorable susceptibilité des moineaux. L'adroit artiste interrogeait M. Casaubon sur la politique anglaise, ce qui amenait de longues réponses. Will, pendant ce temps, s'était perché sur quelques marches au fond de l'atelier, dominant la scène. Bientôt, Naumann s'interrompit. « Si je pouvais laisser cela pour une demi-heure, » fit-il, « et le reprendre ensuite. Venez voir, Ladislav. Il me semble que c'est parfait jusqu'ici. » Will éclata en interjections éloquentes, plus éloquentes que les phrases grammaticales, pour exprimer son admiration. Naumann reprit d'un ton de regret désolé, « Ah, si j'avais pu seulement vous garder un peu plus longtemps. Mais vous avez d'autres engagements, je ne pourrais vous le demander, pas même de revenir demain. » « Oh, restons encore, » dit Dorothée. « Nous n'avons rien à faire aujourd'hui qu'à nous promener, n'est-ce pas ? » ajouta-t-elle en jetant un regard suppliant à M. Casaubon. « Ce serait dommage de ne pas achever cette tête le mieux possible. » « Je suis à votre disposition, monsieur, » dit Casaubon, avec une condescendance polie. « Puisque j'ai donné congé à mon cerveau, il est juste que son contenant se rende utile de cette façon. »« Vous êtes trop bon, Me voilà enchanté, dit Norman, qui se mit à causer en allemand de son tableau avec Will. Puis il le mit de côté, regardant vaguement autour de lui, comme pour chercher quelque occupation à ses visiteurs. Se tournant enfin vers M. Casaubon, « Peut-être, dit-il, cette gracieuse lady, votre charmante femme, me permettrait-elle de remplir notre temps en essayant d'après elle une légère esquisse, pas pour ce tableau, bien entendu, une simple étude. » M. Casaubon répondit en s'inclinant que Mme Casaubon désirait certainement lui être agréable. « Comment dois-je poser ? » s'écria aussitôt Dorothée. Norman ne tarit pas en excuse quand il lui demanda de se lever et de lui permettre de la placer. Elle se soumit avec une parfaite bonne grâce. « Voilà, dit le peintre, c'est la pose de Sainte-Claire que je veux vous donner. Appuyez ainsi, la joue sur votre main, c'est cela, en regardant ce tabouret, s'il vous plaît. Nous y voici. » Will était partagé entre le désir d'aller se jeter aux pieds de la sainte et de baiser le bas de sa robe, et la tentation d'assommer Norman pendant qu'il arrangeait le bras de Dorothée. Outré de tant d'impudence, de ce manque de respect, il se repentit de l'avoir amené. L'artiste fut expéditif, et Will, recouvrant son empire sur lui-même, circula dans l'atelier et occupa M. Casaubon aussi ingénieusement que possible. Mais il ne put faire qu'à la fin, le temps ne parut long à ce gentleman, ainsi qu'on le vit clairement lorsqu'il exprima la crainte que sa femme ne fût fatiguée. Norman comprit l'allusion et dit « Maintenant, monsieur, si vous pouvez me donner encore un moment à votre tour, je libérerai madame. » M. Casaubon retrouva sa patience, et lorsqu'on eut enfin décidé que la tête de saint Thomas d'Aquin serait plus parfaite avec une autre séance, il l'accorda pour le lendemain. La Sainte Claire aussi fut retouchée le lendemain plus d'une fois, et tout cela fut si loin de déplaire à M. Casaubon qu'il se décida à acheter le tableau de saint Thomas d'Aquin. Le saint, assis au milieu des docteurs de l'Église, plongé dans une discussion trop abstraite pour être représenté, mais suivi avec plus ou moins d'attention par un auditoire divin. Quant au tableau de Sainte-Claire, dont il parla ensuite, Norman ne s'en déclara pas satisfait. Il ne pouvait en conscience, disait-il, s'engager à en faire un tableau de quelque valeur. Aussi l'acquisition en resta-t-elle incertaine et fut-elle conclue sous condition seulement. Je ne m'étendrai pas sur les plaisanteries que fit Norman aux dépens de M. Casaubon ce soir-là, ni sur les dithyrambes à propos des charmes de Dorothée, auxquels Will faisait chorus, mais avec une légère différence. Norman mentionnait-il un détail de la beauté de Dorothée, Will aussitôt s'exaspérait de sa présomption. Il trouvait grossier le choix des mots les plus usuels dont il se servait. Et puis, quel besoin avait-il de parler des lèvres de Dorothée ? On ne pouvait parler d'elle comme des autres femmes. Will ne savait pas exactement ce qu'il éprouvait, mais il devenait irritable. Et pourtant, lorsqu'il avait consenti, après quelques résistances, à amener les Casaubon dans l'atelier de son ami, ce qu'il avait guidé, c'était une certaine jouissance orgueilleuse de procurer à Norman l'occasion unique d'étudier la beauté, ou plutôt la divine perfection de Dorothée. Car les expressions ordinaires, qui ne s'appliquent qu'aux charmes extérieurs, ne pouvaient lui convenir. Tipton et ses environs, aussi bien que Dorothée elle-même, n'eussent pas vu sans surprise tant de bruit autour de sa beauté. Dans cette partie de l'univers, Miss Brooke n'avait été qu'une jeune personne agréable.
« Faites-moi le plaisir de laisser ce sujet, Norman. »«
Il ne faut pas parler de Mrs. Casaubon comme d'un modèle, » dit Will. Norman le regarda avec surprise. « Jeune, je vais parler de mon saint Thomas d'Aquin. Sa tête n'en est pas un vilain type, après tout. » Je crois que le grand scolastique lui-même eût été flatté si on lui avait offert de faire son portrait. Il n'y a rien de si vaniteux que ces docteurs et ces savants gourmets. C'est bien comme je pensais. Casaubon tenait beaucoup moins au portrait de sa femme qu'au sien propre. « C'est un vilain cuistre, un pédant à sang-froid, » dit Will impétueusement. Son auditeur ignorait les obligations qu'il avait à M. Casaubon. Mais Will ne les oubliait pas. Et il souhaitait de pouvoir un jour s'en débarrasser avec un chèque. Norman haussa les épaules. « Il est fort heureux qu'il nous quitte bientôt, mon cher, » dit-il. « Il gâte absolument votre bon caractère. » Will n'eut plus maintenant qu'un espoir et une pensée, voir Dorothée seule une fois encore. Il voulait lui laisser de lui-même une impression plus profonde, afin de conquérir et de garder dans son souvenir une place à part. Il souffrait d'impatience devant cette bonne volonté ouverte et ardente qui était l'état d'âme habituel de Dorothée. L'adoration, vouée de loin à une femme placée sur un trône au-delà de leur portée, joue un grand rôle dans la vie des hommes. Et généralement, l'adorateur exige quelque reconnaissance de la part de la reine, quelque signe d'encouragement par lequel l'âme de sa souveraine le charme et le ravisse sans pour cela descendre de son piédestal. C'était là précisément ce que Will souhaitait. Mais que de contradictions dans ces exigences de son imagination. Il trouvait superbe de voir les yeux de Dorothée se fixer suppliant sur M. Casaubon dans son anxiété d'épouse. Sans cette préoccupation de soumission et de respect, elle eût perdu de son auréole. Et pourtant, l'instant d'après, voir un tel nectar absorbé par son mari comme par un sable aride lui devenait intolérable. Et sa tentation de parler de cet époux défavorablement ne lui était que plus pénible par les bonnes raisons qu'il avait de se contenir. On n'avait pas invité Will à dîner le lendemain. Aussi se persuada-t-il qu'il leur devait une visite, et que le seul moment à choisir était le milieu de la journée, pendant que M. Casaubon était sorti. Dorothée, qui ne savait rien du mécontentement qu'avait causé à son mari la première visite de Will, trouva la chose la plus naturelle du monde, d'autant plus que c'était sans doute une visite d'adieu. Elle était en train d'examiner des camées qu'elle avait achetées pour Célia, et, tenant à la main un bracelet, elle l'accueillit en lui disant « Que je suis contente que vous soyez venue. Peut-être vous connaissez-vous en camées, et pourrez-vous me dire si ceux-ci sont vraiment beaux. Je désirais que vous vinssiez les choisir avec nous, mais M. Casaubon n'a pas voulu. Il pensait que nous n'en aurions pas le temps. Il finira son travail demain, et nous partons dans 3 jours. J'étais embarrassé pour ces camées. Voulez-vous vous asseoir et les regarder ? Je ne suis pas trop connaisseur, mais vous n'avez pu commettre une bien grave erreur dans le choix de ces petits bibelots homériques. Ils sont très purs, et la couleur en est jolie. Ils vous siéront parfaitement. Oh, ils sont destinés à ma sœur, qui a un tout autre teint que moi. Vous l'avez vue avec moi à Lowick. Elle est blonde et très jolie, à mon avis du moins. Nous n'avons jamais été aussi longtemps séparés. C'est une enfant gâtée, et elle n'a jamais eu un moment de méchanceté dans sa vie. J'ai vu avant de partir qu'elle avait envie de quelques camées, et je serais fâché qu'ils ne fussent pas beaux. « Dans leur genre, ajouta-t-elle, avec un sourire. « Vous n'avez pas l'air de vous soucier de ces bijoux pour vous-même, » dit Will en s'asseyant à quelques pas d'elle et en l'observant pendant qu'elle refermait les écrins. « Non, franchement, je ne les considère pas comme un objet précieux dans la vie. « Je crains que vous ne soyez une hérétique pour tout ce qui se rapporte à l'art. « Comment cela se fait-il? Je vous aurais cru très sensible au beau en toutes choses. » « Je suis, je crois, stupide en beaucoup de choses, » dit Dorothée simplement. « Je voudrais rendre la vie belle et agréable, la vie de tous, bien entendu. Et alors, comment ne pas s'affliger de voir cette si grande dépense d'art qui semble comme en dehors de la vie réelle et qui ne contribue pas à rendre le monde plus heureux? Le plaisir que je prends à la moindre chose est gâté pour moi quand je pense que tant de gens en sont exclus. » « J'appelle cela le fanatisme de la sympathie, » répliqua Will impétueusement. « Vous pourriez en dire autant du paysage, de la poésie, de tout autre raffinement de jouissance. En agissant conformément à ces principes, votre devoir serait de vous rendre malheureuse avec toute votre bonté et de devenir mauvaise, afin de n'avoir plus d'avantage sur les autres. La meilleure piété est de jouir quand on le peut. » C'est le moyen de donner au monde l'apparence d'une planète agréable. La joie rayonne d'elle-même. Ce n'est pas la peine d'essayer de prendre soin de l'univers. C'est en prendre soin que d'y puiser des jouissances d'art ou autre. Voudriez-vous faire de la jeunesse d'ici-bas un cœur tragique, pleurant et moralisant sur les souffrances de la Terre? Je vous soupçonne d'avoir mal compris quelquefois la vertu de la souffrance et de vouloir faire de la vie un martyr. Will avait été plus loin qu'il ne voulait, et il s'arrêta. Mais la pensée de Dorothée ne suivait pas exactement la même direction que la sienne, et elle répondit, sans laisser voir d'émotion particulière, Vous vous trompez certainement sur mon compte. Je ne suis pas une créature triste et mélancolique. Je ne suis jamais longtemps de suite malheureuse. Je suis violente et méchante, bien différente de Célia. J'ai parfois de terribles accès de révolte, après quoi tout me semble redevenir noble et beau. Je ne puis m'empêcher de croire en aveugle à tout ce qu'il y a de beau dans le monde. Je serai toute disposée à jouir de l'art ici, à Rome. Mais il y a tant de choses dont je ne connais pas la raison, tant de choses qui me semblent plutôt une consécration de la laideur que de la beauté. La peinture et la sculpture peuvent être merveilleuses dans les formes qu'elles représentent, mais le sentiment en est souvent bas et grossier, quelquefois même ridicule. J'y rencontre bien parfois telle chose qui me captive soudain par un caractère de noblesse, telle chose que je pourrais comparer au mont Albin ou au coucher du soleil vu du mont Pinjo. Mais c'est une grande pitié que ces objets nobles et élevés soient si rares, et comme perdus dans la masse des choses inférieures sur lesquelles les hommes ont usé leur peine. Sans doute, il y a toujours beaucoup de travail inutile et médiocre. Les plantes rares veulent pour croître un sol rare aussi. « Oh Dieu !» s'écria Dorothée, saisissant cette pensée dans le courant impétueux de son âme inquiète. « Je vois combien il doit être difficile de faire quelque chose de bien. Je me suis dit souvent, depuis que je suis à Rome, que si, sur ces murailles, on représentait les vies de la plupart d'entre nous, elles paraîtraient bien plus laides et plus inutiles que les peintres que nous y voyons. » Dorothée avait les lèvres entr'ouvertes, comme pour continuer, mais, changeant d'avis, elle s'arrêta. « Vous êtes trop jeune, c'est un anachronisme que d'avoir de telles idées à votre âge, » dit Will énergiquement et avec un rapide mouvement de tête qui lui était habituel. « Vous parlez comme si vous n'aviez jamais connu de jeunesse, c'est monstrueux. On dirait que vous avez eu dans votre enfance une vision des enfers comme le petit garçon de la légende. Vous avez été élevé dans ces affreux principes qui choisissent les plus charmantes femmes pour les dévorer, comme le Minotaure. Et maintenant vous allez partir pour être enfermée dans cette maison de pierre de Lowick. Vous y serez enterrée vivante. J'en deviens fou, rien que d'y penser. J'aurais mieux aimé ne jamais vous voir, plutôt que de me représenter votre vie là-bas. » Will craignit encore d'être allé trop loin. Mais c'est toujours notre propre sentiment qui interprète ce qu'on nous dit, et le cœur de Dorothée, qui s'était toujours donné avec tant d'ardeur aux autres, et n'avait jamais en retour reçu que si peu de ceux qui l'entouraient, devina dans ce ton de regret irrité une tendresse si profonde qu'elle ressentit pour lui un nouvel élan de gratitude, et lui répondit avec un charmant sourire, « Vous êtes bon de vous inquiéter tant de moi. Cela vient de ce que vous-même n'aimez pas Lowick. Votre cœur avait rêvé un autre genre de vie, mais Lowick est la demeure que j'ai choisie. » Cette dernière phrase fut dite d'un accent presque solennel. Will ne savait ce qu'il devait répondre, puisqu'il ne lui eût servi de rien d'embrasser ses souliers et de lui dire qu'il voudrait mourir pour elle. Il était clair qu'elle ne lui demandait rien de semblable. Et ils restèrent tous deux silencieux pendant un moment, jusqu'à ce que Dorothée reprit la parole, semblant vouloir dire enfin ce qui était dans sa pensée tout à l'heure. « Je voulais vous interroger encore à propos de ce que vous avez dit l'autre jour. » Vous avez une façon si rapide de vous exprimer fortement, et j'ai observé que vous aimiez à accentuer votre pensée. J'exagère souvent aussi moi-même quand je parle vivement. « Qu'était-ce donc ? » dit Will, remarquant chez elle une timidité toute nouvelle. « J'ai un langage hyperbolique, il prend feu à mesure qu'il va. Je suis sûr que je vais être forcé de me rétracter. » Je reviens sur ce que vous avez dit sur la nécessité de savoir l'allemand. J'y ai beaucoup songé depuis. Il me semble qu'avec la science qu'il possède, M. Casaubon doit avoir à sa disposition les mêmes matériaux que les savants allemands. Ne le croyez-vous pas? Ce qui rendait Dorothée timide, c'est qu'elle sentait, sans bien se l'expliquer, que pour la première fois, elle consultait une tierce personne sur la valeur de savant de son mari. Pas tout à fait les mêmes matériaux, dit Will, désireux de rester sur la réserve. Il n'est pas orientaliste, vous savez. Il ne prétend pas à autre chose dans cette branche-là qu'à une science de second ordre. Mais il y a sur l'Antiquité des ouvrages pleins de valeur qui ont été écrits il y a bien longtemps par des savants qui ne connaissaient rien de ces richesses modernes. Et ils servent encore. Pourquoi le livre de M. Casaubon n'aurait-il pas la même valeur que cela ? Dit Dorothée avec une énergie où perçait un léger reproche. Cela dépend de la direction et du sujet choisi, répliqua Will. Le travail que M. Casaubon a entrepris est sujet à autant de changements que la chimie. De nouvelles découvertes y amènent constamment de nouveaux points de vue. Qui est-ce qui a besoin d'un système basé sur les quatre éléments ou d'une réfutation de Paracelse? Ne voyez-vous pas qu'il ne sert à rien de ramper péniblement sur les traces des hommes du siècle dernier et de redresser leurs erreurs, de vivre dans un grenier à débarras et de fournir pour les remettre au jour des théories boiteuses sur Schuss et Misraïm? Comment pouvez-vous en parler si légèrement, dit Dorothée, avec un regard moitié chagrin, moitié colère. Si c'était comme vous dites, y aurait-il rien de plus triste que de voir tant de labeur opiniâtre dépensé en pure perte? Je m'étonne que vous n'en soyez pas plus affecté, si vous pensez réellement qu'un homme comme M. Casaubon, de tant de facultés, de sciences et de bonté, pourrait échouer dans la poursuite de ce but auquel il a consacré les plus belles années de sa vie. Elle commençait à s'en vouloir à elle-même d'en être arrivée à une telle supposition, et à s'indigner contre Will de l'y avoir amené. « Vous m'avez interrogé sur le fait et non sur mon sentiment, » dit Will. « Mais s'il vous plaît de me punir pour le fait, je me soumettrai. La situation où je me trouve vis-à-vis de M. Casaubon ne me permet pas d'exprimer mes sentiments sur lui. Son éloge dans ma bouche aurait toujours le tort de venir d'un homme dans sa dépendance et pensionné par lui. Pardonnez-moi, dit Dorothée en rougissant jusqu'au blanc des yeux. Je sens, comme vous le dites, que j'ai mal fait en m'engageant sur ce terrain. Oui, j'ai absolument tort. Il est beaucoup plus noble d'échouer après un long et persévérant travail que de ne jamais entreprendre la lutte, fût-ce au prix d'un échec final. Je suis tout à fait de votre avis, dit Will, décidé à retourner la situation. Si bien de votre avis que je suis résolu à courir le risque d'un échec du même genre. La générosité de M. Casaubon a peut-être été un écueil pour moi, et j'ai l'intention de renoncer à la liberté que je lui devais. Mon projet est de revenir prochainement en Angleterre, d'y faire mon chemin comme je pourrais, et de ne dépendre de personne que de moi-même. Cela est bien. Je respecte votre sentiment, dit Dorothée avec un retour d'amitié pour lui. Mais je suis sûr que M. Casaubon n'avait jamais eu en vue que de vous être le plus utile possible. Elle fait du moins preuve d'obstination et d'orgueil, à défaut d'amour, maintenant qu'elle est sa femme, pensa Will. Et il prononça en se levant, « Je ne vous reverrai plus. »« Oh, restez jusqu'à ce que M. Casaubon revienne, » dit Dorothée gravement. « Je suis si heureuse de notre rencontre à Rome. Je désirais vous connaître. » « Et je vous ai fâché, » dit Will. « Je vous ai donné mauvaise opinion de moi. »« Oh non ! Ma sœur me reproche toujours de me fâcher contre tous ceux qui ne disent pas exactement ce que je voudrais. Mais je ne crois pas pour cela avoir mauvaise opinion d'eux. Et au bout du compte, c'est à moi-même et à mon impatience que je finis toujours par en vouloir. »« Oui, mais vous ne pouvez m'aimer. Je suis devenu pour vous une pensée désagréable. » « Aucunement, dit Dorothée, avec la cordialité la plus franche. Je vous aime beaucoup. » Will ne fut qu'à demi satisfait. Sans doute, n'étant pas aimé du tout, il eut tenu une place plus importante dans sa pensée. Il ne répliqua rien, mais prit un air morne et presque boudeur. « Et je m'intéresse beaucoup à ce que vous allez faire, » continua gaiement Dorothée. « Je crois fermement à la différence naturelle des vocations. » Si je n'avais pas cette croyance, je serais, je crois, une femme à vue bien étroite. Il y a tant de choses, sans parler de la peinture, dont je suis tout à fait ignorante. Vous seriez étonné si vous saviez combien peu je connais la musique et la littérature dont vous parlez si bien. Je me demande quelle sera enfin votre vocation. Peut-être serez-vous poète? Cela dépend. Être poète, c'est avoir une âme si prompte à tout saisir qu'aucune nuance supérieure ne lui échappe, et si prompte à tout ressentir que l'intelligence n'est plus qu'à développer et à moduler les variations différentes sur les cordes de l'émotion, une âme où la science passe instantanément au sentiment et où le sentiment vient rejaillir comme un nouvel organe de la science. On ne peut réunir toutes ces conditions-là que par instant seulement.
Mais vous ne me parlez pas des poèmes, dit Dorothée.
Il me semble nécessaire pour compléter le poète.
Je comprends bien ce que vous entendez par la science, ce qui devient du sentiment,
car il me semble que c'est ce que j'éprouve moi-même.
Mais je suis sûr que je serais incapable de jamais écrire un poème.
Vous êtes un poème.
Et c'est là ce qui doit faire la meilleure partie d'un poète,
ce qui lui révèle son génie poétique dans ses plus beaux moments, dit Will, déployant cette originalité de la jeunesse que tous nous partageons à notre tour avec le matin, avec le printemps ou avec tout autre renouvellement de la nature éternelle.
Je suis heureuse de le savoir, dit Dorothée, avec un rire qui ressemblait à la modulation d'un chant d'oiseau, et regardant Will avec une émotion enjouée dans les yeux.
Que de choses aimables, vous me dites.
Je voudrais pouvoir faire pour vous n'importe quoi qu'il vous plût d'appeler aimable.
Que j'aimerais à pouvoir vous rendre une fois le plus mince service.
Et je crains de ne jamais en trouver l'occasion.
Will parlait avec ferveur.
Aussi, dit Dorothée cordialement, cela viendra et je me rappellerai combien vous le désirez.
J'espérais tout à fait que nous deviendrions amis la première fois que je vous ai vu, à cause de votre parenté avec M. Casaubon.
Il y avait dans les yeux de Dorothée, tandis qu'elle parlait, un certain éclat humide, et Will sentit que les siens aussi obéissaient à une loi de nature et se remplissaient de larmes. L'allusion faite à M. Casaubon eût tout gâté si, à cet instant, quelque chose avait pu gâter la puissance souveraine, la dignité de cette inexpérience si noble et si confiante.
« Et il y a en ce moment même une chose que vous pouvez faire pour moi, » reprit Dorothée, se levant et faisant quelques pas, poussée encore une fois par une impulsion soudaine.
« Promettez-moi de ne jamais parler de cela à personne, des travaux de M. Casaubon, je veux dire. »
Jamais plus de la façon dont vous l'avez fait avec moi.
C'est moi qui vous y ai poussé, c'est ma faute.
Mais promettez-le-moi. »
Et, achevant sa course rapide à travers la chambre, elle était debout en face de Will, le regardant profondément dans les yeux.
« Certainement, je vous le promets, » dit-il en rougissant.
S'il lui était interdit de s'exprimer désormais en paroles blessantes sur le compte de M. Casaubon, et s'il devait cesser de recevoir ses faveurs, il lui serait du moins loisible de l'en détester davantage.
Le poète, dit Goethe, doit savoir comment il faut haïr.
Et Will possédait ce talent-là. Il ajouta qu'il allait se retirer sans attendre M. Casaubon, dont il viendrait prendre congé au moment de son départ.
Dorothée lui tendit la main et ils échangèrent un simple adieu.
Mais en sortant de la porte cochère, il rencontra M. Casaubon, lequel, en exprimant à son cousin ses meilleurs vœux, le dispensa de sa visite d'adieu pour le lendemain, alléguant que ce jour-là serait suffisamment occupé par les préparatifs du départ.
« J'ai quelque chose à vous dire de votre cousin Ladislav, qui augmentera certainement la bonne opinion que vous avez de lui, » dit Dorothée à son mari dans le cours de la soirée.
Elle lui avait dit, dès qu'il était rentré, que Will venait de la quitter et comptait revenir le lendemain pour prendre congé.
À quoi M. Casaubon avait répliqué, « Je l'ai rencontré là dehors et nous nous sommes faits, à ce que je crois, nos adieux définitifs. »
Cela fut dit de cet air et de ce ton qui implique que le sujet en question, particulier ou général, n'intéresse pas assez pour qu'il y soit fait d'allusions nouvelles. Aussi Dorothée avait-elle attendu.
« Quelle est cette chose, mon amour ?» demanda M. Casaubon.
Il l'appelait toujours « mon amour » dans les moments de plus grande froideur. Il a pris la résolution de renoncer dès à présent à sa vie errante, comme aussi à dépendre de votre générosité. Son intention est de revenir bientôt en Angleterre pour essayer d'y faire son chemin.
« Je pensais que vous interpréteriez cela en sa faveur, » dit Dorothée, en fixant un regard interrogateur sur le visage froid et indifférent de son mari.
« A-t-il mentionné le genre précis d'occupation auquel il compte se livrer ?»«
Non, mais il comprend très bien le danger qu'il y a pour lui, » à profiter plus longtemps de votre générosité.
Il vous en écrira certainement.
Cette résolution qu'il a prise ne vous donne-t-elle pas une meilleure opinion de lui?
J'attendrai pour cela la communication de son projet, dit M. Casaubon.
Je lui ai dit que certainement vous n'aviez en vue que son bien dans tout ce que vous avez fait pour lui jusqu'ici. Je me suis souvenu de votre bonté en me parlant de lui la première fois que je le vis à Lowick, dit Dorothée, posant sa main sur celle de son mari. J'avais un devoir à remplir envers lui, répliqua M. Casaubon, posant son autre main sur celle de Dorothée, lui montrant par là qu'il acceptait consciencieusement ses caresses, mais avec un regard malgré lui embarrassé. Ce jeune homme, je l'avoue, n'est d'aucun intérêt pour moi en dehors de cela, et nous n'avons que faire, il me semble, de discuter sa future carrière, qu'il ne nous appartient pas de déterminer au-delà des limites suffisamment indiquées par moi. Dorothée ne fit plus d'allusion à Will Ladislav.